Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est tout juste 16h à Paris.
Olivier Sherman.
En Birmanie, l'aide internationale s'organise pour retrouver des survivants et aider la population en détresse après le tremblement de terre qui a frappé l'Asie du Sud-Est. Plus de 1600 morts et des milliers de blessés selon le bilan encore provisoire et sûrement très sous-évalué. Jamais un séisme d'une telle intensité n'avait frappé la Birmanie depuis des décennies. Une foule immense s'est rassemblée à Istanbul à l'appel de l'opposition pour dénoncer l'arrestation de son chef, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, et la répression qui continue de s'abattre sur les protestataires. Nous retrouverons dans ce journal notre envoyé spécial en Turquie, Daniel Valo. Un peu partout, des manifestations contre la politique menée par Donald Trump. Nous irons à Barcelone, où des Américains en poste là-bas sont descendus dans la rue pour protester contre les dernières décisions américaines. Et puis, la présidente par intérim de l'Université Columbia de New York démissionne, trop de pression politique et baisse de subventions, nous expliquera Vincent Sorio. Plus de 1600 morts et près de 3500 blessés en Birmanie après le puissant séisme de magnitude 7,7 qui a frappé la région. L'effondrement de maisons, d'immeubles, de ponts ou de sites religieux laisse craindre une catastrophe de grande ampleur. Jamais un séisme d'une telle intensité n'avait frappé la Birmanie. L'étendue du désastre reste encore difficile à évaluer et le bilan humain pourrait fortement s'aggraver. Les secours multiplient les efforts pour rechercher des survivants. Le chef de la junte a lancé un rare appel à l'aide internationale, invitant tout pays, toute organisation à apporter son secours, un appel entendu. La Chine a envoyé 82 sauveteurs et s'est engagée à fournir une aide humanitaire d'urgence de près de 14 millions de dollars. Un avion chargé de kits d'hygiène, de couverture, de nourriture et d'autres produits de première nécessité a atterri à Rangoon, en provenance d'Inde. La Corée du Sud, la Malaisie et l'Organisation mondiale de la santé ont aussi annoncé leur aide.
Radio France Internationale.
Des dizaines de milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées à Istanbul aujourd'hui, une foule immense pour protester contre l'arrestation et l'incarcération du maire Ekrem İmamoğlu, principal rival du président turc Recep Tayyip Erdogan. Une manifestation à l'appel de la principale force de l'opposition turque, le Parti Républicain du Peuple, le CHP. À Istanbul, on retrouve notre envoyé spécial Daniel Valo, où la manifestation vient de se terminer.
Dispersion dans le calme à l'issue d'une manifestation qui s'est déroulée elle aussi sans incident. Les manifestants qui passent entre les barrières dressées par les forces de police, qui lancent des huées lorsqu'ils arrivent devant l'un des restaurants de la chaîne Espresso Lab, une chaîne que l'opposition avait appelée à boycotter en raison de ses liens avec les autorités. Sur un parking, des tables en plastique ont été dressées, où des militants du CHP font signer une pétition pour la libération d'Ekrem İmamoğlu, le maire déchu d'Istanbul, injustement incarcéré parce qu'il faisait peur au pouvoir en place, m'a expliqué une militante du CHP venue manifester avec le drapeau turc sur les épaules. Les partisans d'Ekrem İmamoğlu qui demandent sa libération, bien sûr, mais qui disent également se battre pour la justice, pour la démocratie, ou plutôt pour ce qu'il en reste, ajoute avec beaucoup de gravité un habitant d'Istanbul très inquiet de la tournure des événements. « Je m'inquiète, m'a-t-il dit, pour mes enfants et mes petits-enfants qui risquent, selon lui, de vivre et de grandir, non pas dans une démocratie même imparfaite, même menacée, mais bien dans un régime autoritaire. » Bertrand Eclair, Daniel Valo, Istanbul RFI.
Et à travers le pays, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont répondu aux appels à manifester de l'opposition. Depuis l'arrestation du maire d'Istanbul la semaine dernière, les manifestations ont été pour la plupart pacifiques, mais plus de 1900 personnes ont été arrêtées selon les autorités. Moussa Dadis Camara a été gracié pour raison de santé par le chef de la junte en Guinée. L'ancien dirigeant guinéen est bien sorti hier soir de la maison centrale de Conakry, confirme son avocat, maître Jean-Baptiste Jokame Abba. Il avait été placé en détention il y a près de 3 ans, juste avant l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, pour lequel il a été condamné à 20 ans de prison ferme pour crime contre l'humanité. Il n'est cependant pas encore apparu publiquement. Son avocat, maître Abba, ne souhaite pas donner plus de détails. Pour l'instant, une décision surprise, accueillie samedi dans la joie et le soulagement par ses partisans et avec consternation par l'opposition et une partie de la société civile. La Russie poursuit son avancée sur le front ukrainien. Moscou revendique la capture de deux nouveaux villages dans l'est et le sud de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky rapporte de son côté que la Russie a lancé plus de 170 drones sur l'Ukraine au cours de la nuit, frappant des cibles dans plusieurs régions du pays. Nouveau bilan à Gaza, le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour la bande de Gaza indique que 921 personnes ont été tuées dans le territoire palestinien depuis la reprise des bombardements israéliens il y a 10 jours. Le bilan total depuis le début de la guerre, déclenché par l'attaque du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, se monte désormais à 50 277 morts dans la bande de Gaza. Les États-Unis et la démission de Katrina Armstrong, la présidente par intérim de la prestigieuse université Columbia à New York, jettent l'éponge après des semaines de pression politique et financière exercée par l'administration Trump au sujet des mouvements étudiants de soutien à la cause palestinienne. Vincent Souriau.
Aux yeux de la Maison-Blanche, Columbia fait partie d'une ligue d'universités classées à gauche que les milieux conservateurs et l'administration Trump taxent de foyers antisémites depuis les manifestations pro-palestiniennes qui ont suivi la guerre à Gaza. Pour faire plier la faculté, le gouvernement américain s'en est pris à ses finances. 400 millions de dollars d'aide fédérale supprimés au début du mois de mars, assortis d'une forme de chantage. Pour revoir un jour cet argent, vous devez prendre des dispositions radicales. Restriction des masques sur le campus afin d'identifier les manifestants, instauration d'une police universitaire et nomination d'un nouveau responsable des études sur le Proche-Orient. Pour maintenir l'équilibre financier de Columbia, Katrina Armstrong a choisi de signer cet accord, mais à ce stade, rien ne garantit que ces concessions suffiront à combler l'appétit de Donald Trump, alors que les subventions publiques représentent autour de 20% du budget de fonctionnement de l'université. Les républicains au Congrès préviennent déjà qu'ils ne vont pas relâcher la pression et que la nouvelle titulaire du poste, une journaliste de formation, sera elle aussi surveillée de très près.
En Espagne, ce midi, les démocrates américains établis à l'étranger ont organisé plusieurs manifestations contre les actions du gouvernement Trump dans 5 villes, Madrid, Barcelone, Alicante, Malaga et Valence. À Barcelone, ils étaient une centaine pancartes en main.
Ils ont manifesté ce samedi dans 5 villes d'Espagne. À Barcelone, c'est sur la place de l'Amérique qu'une centaine d'Américains a répondu à l'appel des démocrates de l'étranger. Doris Stronger, responsable du parti.
On peut aussi faire des choses ici. Déjà, on a le droit de vote et Trump essaie d'ailleurs de nous l'enlever en ce moment. Et puis, nous pouvons appeler nos représentants de notre pays pour expliquer notre désaccord.
Pancarte contre Trump et Elon Musk en main, Luis Barrella, colombien ayant la nationalité américaine, regrette le manque de mobilisation aux États-Unis.
J'adore cet état d'esprit de communauté qu'il y a ici. Et c'est ce qui manque aux États-Unis, je pense. Ici, les gens se sentent concernés par ce qui arrive à leur communauté.
À ses côtés, sa femme, Lorraine Okevich, américaine, est très inquiète.
Ils arrêtent des immigrés qui ont leur visa en règle. Alors ce ne serait pas si étonnant qu'ils aillent contre les citoyens. Et c'est pour ça que j'ai même peur de retourner là-bas pour visiter mes proches.
Les démocrates de l'étranger assurent qu'ils continueront à se mobiliser contre l'administration Trump. Élise Gazangel, Barcelone, RFI.
On termine avec un mot de sport, avec en football la Coupe d'Angleterre. Crystal Palace est passé en demi-finale après avoir éliminé Fulham 3-0. Et puis en rugby féminin, avec la deuxième journée du tournoi Destination, la France vient de recevoir l'Écosse à La Rochelle. Et les filles bleues ont battu le 15 du Chardon sur le score sans appel de 38-15. Deuxième victoire en deux matchs pour les Françaises qui avaient battu lors de la première journée les Irlandaises. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio France Internationale. Dans quelques instants, tous les cinémas du monde.